Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une économie marocaine qui semble un peu prise entre deux feux.
Oui, tout à fait.
D'un côté, une ambition technologique qui est fulgurante. On parle d'intelligence artificielle, de fintechs, une volonté de devenir un vrai hub numérique pour le continent.
C'est ça. Et de l'autre, mais des réalités qui sont tenaces. La domination du cash, qui est écrasante, et des millions de toutes petites entreprises qui, elles, peinent à se financer.
Exactement. Pour décrypter tout ça, on a sur la table l'édition du 8 décembre 2025 du magazine EcoBusiness. Notre mission, c'est de comprendre comment le Maroc essaye de résoudre cette grande équation, ce rééquilibrage permanent entre le futur et le présent.
En fait, je pense qu'il faut voir plus loin que ça. Ce n'est pas juste un petit coup de peinture sur l'économie, hein.
Ah non.
Non, c'est vraiment une tentative de changer de logiciel. Depuis des années, plusieurs discours royaux pointent du doigt ce Maroc à deux vitesses, avec des disparités sociales, territoriales qui sont très fortes.
D'accord.
Et les stratégies qu'on va aborder aujourd'hui, de la plus petite entreprise jusqu'au plus grand câble sous-marin, eh bien, elles sont toutes des réponses à ce défi structurel. L'idée, c'est de rendre la croissance plus inclusive et surtout plus résiliente.
Alors, commençons par les fondations, par la base de la pyramide.
Oui.
Il s'agit de cette nouvelle charte pour les très petites entreprises qui a été signée il y a quelques jours, le 4 décembre. On parle des TPE et elles sont l'immense majorité du tissu économique.
Absolument. La charte donne d'ailleurs une définition très large. Toute entreprise avec un chiffre d'affaires annuel de 10 millions de dirhams ou moins. C'est la grande offensive pour enfin intégrer ce qu'on pourrait appeler l'économie réelle.
Exactement. Et cette charte, c'est aussi la reconnaissance d'un échec passé. Pendant des décennies, les TPE ont été les grandes oubliées du système financier.
C'est vrai. Pour y remédier, le document ne se contente pas de vœux pieux. Il s'articule autour de trois piliers très, très concrets. D'abord, le nerf de la guerre, le financement. Les banques s'engagent noir sur blanc à créer des offres de crédit adaptées.
Adapté, c'est-à-dire?
De la création d'entreprises à l'investissement et surtout à numériser tout le processus pour que ça ne soit plus un parcours du combattant administratif.
Je vous arrête là, parce que des promesses de crédit pour les TPE, on en a déjà entendu, non? Je suis un peu sceptique. Qu'est-ce qui nous garantit que cette fois, les banques vont vraiment jouer le jeu?
C'est la bonne question.
Qu'elles vont prêter à une petite couturière à Oujda ou à un artisan à Dakhla, même avec la meilleure volonté du monde?
Justement, la réponse se trouve dans les deux autres piliers. C'est eux qui sont censés changer la donne. Le deuxième, c'est la garantie. L'État, via l'institution Tamouilcom, vient renforcer massivement sa couverture du risque.
D'accord, l'État se porte garant. Voilà. Pour la banque, le raisonnement devient, même si le projet est petit ou semble risqué, l'État couvre une grande partie de mes pertes, donc je peux y aller. C'est ça le fameux cercle vertueux qu'ils essaient d'enclencher. Et le troisième pilier?
Le troisième, c'est l'écosystème. On parle de la CGM, qui est en quelque sorte le grand syndicat des patrons au Maroc. Leur engagement, ce n'est pas anodin.
C'est un signal fort.
C'est un signal très fort envoyé aux grandes entreprises pour qu'elles payent leurs petits fournisseurs plus vite. C'est un fléau, ces délais de paiement qui tuent les TPE.
D'accord, l'approche est plus globale, je vois, mais la vraie rupture, le vrai changement, il est où?
Il est technologique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La charte prévoit la création d'un système national de scoring pour les TPE. En clair, une note de confiance.
Ok.
Sauf que cette note, elle ne sera pas basée uniquement sur les relevés bancaires, qui sont souvent maigres pour ces entreprises. Le système va utiliser l'intelligence artificielle pour analyser ce qu'on appelle des données alternatives.
Des données alternatives.
C'est ça.
Ça peut être quoi, concrètement?
Bah, ça peut être la régularité des paiements de factures de téléphone ou d'électricité, les avis clients en ligne, la solidité des relations avec les fournisseurs.
Ah, d'accord.
Tout un tas d'informations qui montrent qu'une entreprise est bien gérée, même si elle n'a pas un long historique de crédit. L'IA est capable de trouver des signaux de fiabilité là où un banquier classique ne verrait que du risque.
C'est une tentative de corriger les biais, en fait.
Exactement. Les biais qui pénalisent systématiquement les entreprises jeunes ou situées en zone rurale. C'est fascinant. Mais on connaît la musique au Maroc, hein. Les meilleures idées du monde peuvent rester lettre morte si l'exécution ne suit pas. Comment ils comptent s'assurer que cette belle machine ne s'enlise pas? C'est le défi principal, et ils le savent. La gouvernance qui est prévue, c'est la réponse à cette faiblesse historique. Ils créent un comité TPE qui sera piloté directement par la Banque centrale, Banque Al-Maghrib.
Directement par la Banque centrale.
Oui, ce comité va réunir tout le monde, banque, État, patronat, pour suivre les chiffres mois par mois. Et surtout, une plateforme digitale sera mise en place pour que tout soit transparent.
En gros, c'est pour s'assurer que tout le monde fait son travail.
L'idée, c'est de passer du parcours du combattant à une autoroute pour le petit entrepreneur. Le problème, c'est qu'au Maroc, même les autoroutes ont des péages et des embouteillages. Ce comité, c'est un peu la police de l'autoroute.
Attendez, ce système de scoring par IA pour les TPE, c'est une sacrée innovation. Mais est-ce qu'on voit cette même confiance dans l'IA ailleurs dans la finance marocaine ou c'est juste une expérience isolée pour les petits?
Excellente question. Et la réponse est non, ce n'est absolument pas isolé. C'est même une tendance de fond.
Ah oui.
À l'autre bout du spectre, on a l'AMMC, l'autorité marocaine du marché des capitaux, le gendarme de la bourse, qui est en train de finaliser sa propre stratégie pour intégrer l'IA dans sa supervision. Leur devise, c'est anticiper plutôt que subir.
D'accord. Et ils anticipent quoi?
L'idée, c'est d'utiliser des algorithmes pour détecter des manipulations de marché ou des risques systémiques bien avant qu'ils n'explosent.
Donc, si je comprends bien, il y a une stratégie nationale qui se dessine. L'IA est utilisée d'un côté pour inclure les plus petits acteurs, les TPE.
C'est ça.
Et de l'autre, pour policer les plus gros sur les marchés financiers. C'est assez puissant comme vision. Mais ça soulève des questions, non ? Sur les risques de ces algorithmes, la protection des données.
Absolument. Ça joue sur deux tableaux. D'un côté, c'est un message très positif envoyé aux investisseurs internationaux. Regardez, le Maroc modernise sa régulation, c'est un marché sûr, mais de l'autre, ça ouvre la boîte de Pandore des défis éthiques, comme par exemple...
Qui vérifie les algorithmes? Comment s'assurer qu'ils ne créent pas de nouvelles discriminations? C'est le grand débat mondial, et le Maroc y plonge tête la première. Et le secteur privé suit.
Oui, et il ne reste pas les bras croisés. On voit qu'une fintech, Zazu, vient de lever 1 million de dollars pour se lancer au Maroc. Sa cible...
Précisément les PME.
Tiens donc. Ils veulent être le système d'exploitation financier de l'entrepreneur africain.
On voit bien la convergence. La politique publique crée un appel d'air et des acteurs privés s'y engouffrent. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe qui est assez spectaculaire. On parle de fintech, d'IA, de digitalisation à tout va. Et pourtant, les sources nous montrent que le bon vieux cash n'a jamais été aussi populaire.
C'est incroyable, hein ? Les chiffres sont dingues. La circulation de billets de banque a bondi de 131% en 10 ans. Ça représente presque 29% du PIB. C'est énorme.
C'est complètement contre-intuitif. Et ça montre la complexité du terrain. Cette résistance du cash a des racines profondes. D'abord, le poids gigantesque de l'économie informelle, où tout se règle en espèces.
Bien sûr.
Ensuite, il y a des habitudes culturelles très fortes, une préférence pour la liquidité, la discrétion dans le petit commerce. Et enfin, des pics saisonniers qui déforment tout.
Le ramadan, l'Aïd.
Exactement. Le ramadan, l'Aïd et le kébir, ou les transferts des Marocains de l'étranger l'été. Ce sont des tsunamis de cash qui sortent des distributeurs.
D'accord pour les causes. Mais au-delà de l'anecdote, est-ce que ça a une vraie conséquence sur l'économie ou c'est juste un détail culturel? Oh non, la conséquence est majeure et très concrète. Elle pèse directement sur la liquidité des banques.
Comment ça?
Plus les gens gardent de l'argent sous le matelas, moins il y a de dépôts dans le système bancaire. Pour pouvoir continuer à prêter, les banques sont obligées d'aller se refinancer plus souvent, et donc plus cher, auprès de la banque centrale.
Et ça se répercute sur le coût du crédit pour tout le monde au final.
Voilà. Donc cette préférence pour le cash n'est pas neutre du tout, elle grippe un peu la machine. Ce décalage entre la stratégie d'en haut et la réalité du terrain, ça me fait penser à un autre champ de bataille actuel, le transport urbain. On apprend que le Conseil de la concurrence a ouvert une enquête sur le marché des VTC.
Oui, le dossier est brûlant. Le contexte est explosif, avec le grand retour d'Uber après 7 ans d'absence et un marché qui est totalement dominé par 3 géants internationaux, InDrive, Uber Carem et Yango. Ils raflatent 99% de l'activité. C'est un moment absolument crucial pour la mobilité urbaine au Maroc. Ce secteur a toujours fonctionné dans une sorte de zone grise juridique.
Et qu'est-ce qui a déclenché l'enquête? La plainte d'un acteur marocain, l'éditeur de l'application Taxi Sabi, qui s'estime victime de pratiques anticoncurrentielles. La décision du Conseil de la concurrence va donc être bien plus qu'une simple amende. Elle va potentiellement définir les règles du jeu pour les années à venir.
Et quels sont les scénarios possibles?
Il y en a principalement deux. Soit le Conseil impose des règles qui favorisent la transparence et une concurrence plus saine, ce qui pourrait permettre à des acteurs locaux plus petits de se faire une place.
Ça, ce serait le scénario de l'ouverture.
Exactement. Soit, au contraire, la décision ne change rien en profondeur et on assiste à la consolidation d'un quasi-monopole où les trois géants actuels se partagent le gâteau.
Avec des barrières à l'entrée quasi infranchissables.
Voilà, pour quiconque voudrait les défier.
Ok, on a donc ces tensions internes très fortes. Mais si on zoome en arrière, comment tout ça est perçu de l'extérieur? Est-ce que le Maroc est considéré comme un endroit où il faut investir en ce moment? Il semble qu'il y ait des signaux positifs du côté de la bourse de Casablanca.
Oui, l'ambiance est nettement plus optimiste. On assiste à une vague d'introduction en bourse et surtout, on note le retour en force des investisseurs particuliers.
Les personnes physiques?
Oui, ils représentent presque 28% des échanges. C'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 2017. C'est un signe de confiance qui ne trompe pas.
Et d'où vient cette confiance? C'est juste un rebond technique, ou il y a quelque chose de plus profond? Il y a un moteur très puissant derrière ça, le fonds Mohamed VI pour l'investissement. Expliquez-nous.
Concrètement, ce fonds, ce n'est pas juste un portefeuille. C'est un outil stratégique. Il entre au capital d'entreprises dans des secteurs clés, comme l'industrie verte ou la transformation digitale, et son simple sceau d'approbation rassure les investisseurs privés.
C'est un effet de levier, c'est ça. Ils se disent, si l'État y met son argent, c'est que le projet est solide. Et ça marche incroyablement bien. Les chiffres montrent que pour chaque dirham d'argent public investi par le fonds, plus de 4 dirhams ont été apportés par le privé. C'est un ratio de classe mondiale. Et cet argent irrigue l'économie réelle, ce qui se voit sur les marchés.
Tout à fait. Certains analystes prévoient même une croissance à deux chiffres de l'indice boursier MASI d'ici 2026, notamment porté par la dynamique de la Coupe du Monde 2030.
Ce flux d'argent, ce flux de données, on peut le suivre sur les graphiques de la bourse. Mais l'un des articles les plus surprenants qu'on a lus parle d'une infrastructure bien plus massive, quasi invisible, et qui se joue littéralement sous la mer.
Ah oui, les câbles sous-marins.
L'article parle d'une nouvelle guerre silencieuse.
C'est une excellente formule, car elle décrit parfaitement la situation. La géopolitique de ces autoroutes de l'information a complètement changé. Avant, c'était des consortiums d'opérateurs télécoms nationaux.
Et maintenant?
Aujourd'hui, les principaux acteurs, ce sont les GAFAM. Meta, la maison mère de Facebook, finance à elle seule le câble To Africa, un monstre de 45 000 km qui encercle tout le continent. Google a le sien, et Kiano?
Et pourquoi ils font ça?
Parce qu'ils représentent plus de la moitié du trafic mondial et qu'ils ne veulent plus dépendre de personne. Ils construisent leur propre système nerveux planétaire.
Et le Maroc, dans cette immense partie de risque numérique, il se situe où? C'est un joueur, un pion ou juste un bout de territoire?
Le Maroc joue une carte très intelligente de hub stratégique. Sa géographie, avec sa double façade, Atlantique et Méditerranée, en fait un point d'atterrissage naturel et incontournable pour connecter l'Europe et l'Afrique. Il se positionne comme un carrefour fiable, stable.
Mais ça pose la question de la souveraineté numérique, j'imagine.
Évidemment, c'est une question vertigineuse. L'Afrique gagne une connectivité sans précédent, c'est une certitude. Mais le contrôle de ces flux de données, l'actif le plus précieux du XXIe siècle, dépend désormais de décisions stratégiques prises à Mountain View ou à Menlo Park.
C'est le grand paradoxe de cette nouvelle infrastructure.
Absolument.
Si on essaye de relier tous les points, le fil conducteur qui se dégage est celui d'une course contre la montre. D'un côté, une stratégie délibérée pour moderniser, digitaliser, inclure via la technologie. Et de l'autre, des forces d'inertie très puissantes, qu'elles soient culturelles comme l'attachement au cash ou structurelles.
Oui, comme la difficulté des TPE à accéder au marché. Toute notre discussion, c'est l'histoire de ce grand rééquilibrage.
Exactement.
Et pour conclure, peut-être une pensée pour la suite. Un des articles cite un banquier qui dit que les TPE seront les premières juges de la nouvelle charte en 2026. Je crois que cette idée peut s'appliquer à tout ce dont on a parlé.
C'est une bonne image.
Le succès de toutes ces grandes stratégies, la finance dopée à l'IA, le statut de hub numérique, la bourse dynamique, ne se mesurera pas uniquement à la croissance du PIB ou à l'indice MASI. Il se mesurera à un critère beaucoup plus simple et plus humain.
Lequel ?
Est-ce qu'un jeune entrepreneur, dans une région éloignée du centre, peut enfin obtenir un crédit facilement, trouver des clients et faire prospérer son projet? C'est là que se lira le succès ou l'échec de ce rééquilibrage. Le vrai test, il est là.